locaux, billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Bègue. Bonjour et une fois de plus, merci à tous pour votre fidélité. Alors je parle bien sûr des auditeurs et auditrices de 48 FM, de toutes les antennes de fréquence Mistral dans le Midi, ainsi que ceux de Radio Margeride qui me retrouvent sur la bande FM ou bien en DAB+. Alors je n'oublie pas non plus tous ceux qui m'écoutent en streaming sur leur PC, leur tablette ou leur smartphone, ainsi que tous ceux que je sais être nombreux à me retrouver sur le site orinoco-podcast ou sur toute autre plateforme de streaming musical et de podcast, hein, tels que Deezer, Apple Music, Amazon Music ou YouTube Music, où le programme Orinoco apparaît. Et qui m'écoute dans ce cas-là, quand bon leur semble. L'émission d'aujourd'hui est le produit de différents facteurs ou événements que je vais essayer de vous citer sans doute dans le désordre. Premièrement, l'émission de février des Indes galantes à la Bastille suscita pas mal de réactions. Émission, si vous ne l'avez pas écoutée, où je relatais l'épopée d'une trentaine de danseurs de hip-hop, crump et voguing, invités dans un lieu où ils n'ont pas le droit de citer, l'Opéra de Paris-Bastille. Le tout filmé par Philippe Béziat pour un documentaire exceptionnel. Documentaire qui me fut donné de voir lors du mois du Doc en novembre dernier. Et pourquoi cette émission suscita tant de réactions ? Sans doute parce que je tentais, au travers de ce programme, de faire tomber quelques barrières, comme l'avait déjà fait avant moi le metteur en scène Clément Cogitor et la chorégraphe Bintou Dembélé, en mêlant une œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau et des danses urbaines. Mais dans ce programme, j'allais encore un peu plus loin en dénonçant le manque d'ouverture structurelle de cette institution qu'est l'Opéra de Paris, dénonçant aussi les préjugés entretenus face à la diversité réelle de notre territoire. La seconde raison qui me poussa à faire l'émission d'aujourd'hui, c'est que toujours pendant ce mois du Doc, j'eus l'occasion de visionner un autre film documentaire réalisé par Sébastien Lefebvre, La Tzigane sur la route avec ta mère en tongue. Film pénétrant dans les répétitions et les représentations d'une pièce de théâtre jouée par des enfants de la compagnie Ta mère en tongue, La Tzigane de Lord Stanley. D'où le titre de cette émission, La Tzigane sur la route, une épopée surréaliste où les préjugés tombèrent. Pièce dénonçant des travers similaires que ceux constatés dans les Indes galantes, intolérance et préjugés. Petite parenthèse, vous me direz que c'est pas la première fois que j'aborde ce sujet. Et vous aurez raison, il y a pile un an, mois pour mois, en avril 2025, j'essayais de balayer large avec une émission qui s'intitulait « Tolérance et respect ». Et antérieurement, j'avais déjà produit une autre émission « Déracinés, expatriés et exilés » sur la nature des sentiments éprouvés par tous les transplantés d'un désordre social, sanitaire ou économique vers un ordre moral, hygiénique, prospère et individualiste. Puis en remontant encore plus loin d'ailleurs, en octobre 2017, émission que vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter, Tzigane, Rome, Manouche et Gitan, où je tentais de montrer que leur tradition constituait une richesse culturelle présente dans l'ensemble de nos régions et qu'elle devait être davantage reconnue. Modifier le regard que la société porte sur les gens du voyage, sur les Tziganes de France, me paraît nécessaire. Reconnaître leur mémoire, leur identité, leur culture. Faire découvrir leur patrimoine, culturel, matériel, comme immatériel. J'en avais profité pour circuler librement dans l'univers de ces musiques tziganes, manouches, roms et gitanes. Celles qui, dès qu'on les entend, nous font tourner, chanter, crier. Ces musiques qui nous offrent une forme d'ivresse sans pour autant avoir bu. Celles qu'on envoie sans partition. Celles qui fut transmise dans les doigts de ces gosses par ceux de leurs parents et grands-parents, sachant qu'ils n'auront peut-être que ça à léguer pour tout héritage. Je vous laisserai d'ailleurs les liens de ces émissions, si cela vous intéresse, dans l'article qui accompagnera le podcast de l'émission d'aujourd'hui sur le site orinoco-podcast. Mais avant tout, j'aimerais vous dire quelles seront les quatre grandes lignes directrices de ce programme. Parler dans un premier temps et assez longuement de cette association Tamerentang, de ses travaux. Deuxièmement, parler de ce film documentaire, La Tzigane sur la route avec Tamerentang. Troisièmement, dénoncer le problème soulevé, les problèmes soulevés par cette aventure. Et conclure par les nouveaux projets menés par la compagnie Tamerentang. Alors, gros chantier qui ne me permettra pas de traîner et qui m'amène à tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'identification de cette association au drôle de nom, Tamerentang. Alors, pourquoi ce nom? Quand et comment est-elle apparue? Quels sont ses travaux, ses objectifs, ses résultats? Car il est essentiel, avant de décortiquer et d'expliquer les pistes que nous propose ce film, de s'arrêter assez longuement sur ce qui permet à ce film documentaire d'avoir lieu. Je veux parler de la genèse de cette aventure, l'association Tamerentang, que j'appellerai TMT pour faire plus court. Et pour parler de cette association, je reprendrai en partie, entre autres, les propos de la Fondation de France, qui soutient cette compagnie TMT depuis sa création en 1992. TMT est une compagnie de théâtre qui sévit à Paris-Belleville, à Mantes-la-Jolie et à Saint-Denis dans le 93. Alors sa particularité, c'est qu'elle monte des spectacles depuis plus de 30 ans avec la jeunesse de ses quartiers populaires d'Île-de-France. Et son action s'articule autour de la formation de troupes de théâtre, mais aussi de conduire des ateliers, de structurer des tournées nationales et internationales. À vrai dire, TMT, donc l'abréviation de Tamerentang, défend une culture vivante, indépendante et issue de la diversité. C'est donc dans le quartier parisien de Belleville qu'en 1992, cette structure fut créée à l'initiative d'un collectif d'artistes, dont la comédienne Christine Pélican, femme de caractère, au service d'un théâtre engagé. Là encore, avant d'aller plus loin, je me dois de vous dire quelques mots supplémentaires sur cette comédienne. C'est à 22 ans que Christine Pélican décida de quitter un cursus d'histoire et de sociologie à Lyon pour s'inscrire dans une école de théâtre à Paris. Alors pour financer son projet, elle a dû travailler comme vendeuse, femme de ménage, professeur des écoles et animatrice aussi. Puis, elle devint comédienne et intégra des troupes parisiennes. Puis peu à peu, elle laissa de côté sa carrière de comédienne pour se consacrer uniquement à Tamerentang. Aujourd'hui encore, elle dit ne rien regretter. Elle est toujours animée par la conviction qu'un groupe d'enfants peut prouver que dans ces quartiers populaires, il y a de la joie, de la lumière, de la fête, pouvant transmettre les valeurs du vivre ensemble. En donnant la parole aux minorités, elle veut prouver que la différence est une force. Et pour toutes les radios qui diffusent cette émission, et du moins tant qu'elles existeront, il sera, du moins je le pense, du devoir de chaque bénévole ou salarié de parler de tout ce qui fait sens et cohésion dans notre société divisée par tant de préjugés. Et je ne m'en priverai pas aujourd'hui en décortiquant tous les rouages de cette merveilleuse aventure initiée par Christine Pélican. Xine, le surnom par lequel Christine est appelée, répondait lors d'une interview à une première question qu'on est en droit de se poser. Pourquoi ce nom de Tamerentang? Eh bien, elle répondit que l'équipe fondatrice avait envie d'un nom d'enfant assez énergique, comme ce qu'on pouvait entendre à l'époque dans les cours de récré, et qu'à l'époque c'était la mode de dire « ta mère » en quoi que ce soit. Certains d'ailleurs doivent s'en rappeler. Hein. Et ils avaient entendu un gosse dans la rue dire un jour de pluie « ta mère en bottes en caoutchouc ». Alors ça les avait fait rire, et comme ils étaient issus de la mouvance rock alternatif et des Ludwig von 88, faisant eux aussi partie de l'équipe fondatrice, ils décidèrent de garder la moitié d'un des titres de l'époque de ce groupe qui s'appelait « Ta mère en tongs, ton père en short ». D'où ce nom, « Ta mère en tongs », mais en un seul mot. Cette compagnie, « Ta mère en tongs », que j'appellerai TMT pour être plus efficace, est présente aujourd'hui donc dans la ville de Saint-Denis, dans le 9-3, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, et toujours à Paris aussi. Comme le disait Gabriel Gau, responsable de la coordination, cette vocation à la fois artistique, culturelle, éducative et sociale est au cœur de la démarche de la compagnie. Pour cela, ils travaillent en lien étroit avec les partenaires éducatifs, les écoles, les collèges, les centres sociaux et associations de quartier, mais aussi avec les familles qu'ils tentent d'impliquer au maximum. Et cet ancrage est fondamental pour la réussite du projet. Car, au-delà des planches, le pari de ta mère en tongs est de favoriser chez les jeunes l'ouverture culturelle, le respect de l'autre, l'autocritique et bien d'autres valeurs citoyennes. La diversité de la troupe est aussi une des marques de fabrique de cette compagnie. Les enfants ne sont pas sélectionnés par casting, mais en fonction de leur profil, afin que la troupe soit à l'image du quartier. Dans chaque groupe, on veille à ce que la parité filles-garçons soit respectée, tout comme la mixité sociale, culturelle ou religieuse, car c'est cela qui permet la vraie rencontre et l'émulation, comme le rappelait Gabriel Gau. En parallèle des répétitions hebdomadaires nécessaires à la préparation des spectacles, un accompagnement global est mené sur la durée, permettant à la jeune troupe d'apprendre à jouer et vivre ensemble, avec des séjours collectifs de création loin du quartier, des sorties culturelles, ou encore des temps de parole après chaque séance de travail scénique. Ce qui offre à chacun l'occasion de s'exprimer et de partager ses émotions, ses difficultés, ses questionnements, ou parfois de gérer un différend au sein du groupe. L'écoute et le respect étant la base de tout. Car encore, d'après Gabriel Gau, beaucoup de conflits et de tensions qui existent dans le monde, dans nos quartiers, dans nos écoles, dans nos familles, sont liés à une incapacité de s'exprimer. Comme le soulignait la Fondation de France, si la compagnie Ta mère en tongs a su développer depuis toutes ces années un dispositif socio-culturel et pédagogique hors normes qui aide les enfants à gagner en confiance, à s'ouvrir au monde et même à se remobiliser au niveau scolaire, cette démarche ne s'est pas faite au détriment de l'ambition artistique. Alors, bien au contraire, le choix du répertoire, l'exigence de qualité de chaque production, qui peut mobiliser la troupe pendant 1 à 3 semaines, participe à sa réussite. Les spectacles que nous présentons, nous les voulons à la hauteur d'une troupe professionnelle, précise Gabriel Gau. Cette exigence artistique est aussi une façon de montrer un autre visage de la jeunesse des quartiers, de prouver qu'elle peut faire de grandes choses si on lui en donne les moyens et qu'on lui fait confiance. À ce jour, la compagnie a proposé plus de 100 créations théâtrales, chacune embarquant une centaine de jeunes apprentis acteurs de tous âges. Elle a monté près de 80 productions et joué devant plus de 100 000 spectateurs en France et à l'étranger, notamment en Italie, en Angleterre, en Slovaquie, en Amérique centrale. Alors je vais essayer d'en énumérer quelques-unes de ces représentations théâtrales qui tournèrent un peu partout sur notre territoire et à l'étranger, avant d'en venir à celle qui nous intéresse. Alors il y eut du rififi dans la galaxie, l'histoire abracadabrantesque se passant en 20219. Le cosmotique s'écarlate, reste introuvable dans la galaxie. Alors troupes impériales, corsaires, centauriens, forces rebelles, intergalactiques, tous sillonnent l'univers en quête de la pierre prodigieuse. Mais les tensions s'avivent. Alors, au travers de cette pièce, la compagnie Tamerlan-Tong permit à 24 jeunes de 8 à 12 ans, issus d'un quartier populaire, en l'occurrence cette fois-ci de Paris-Belleville, de proposer un spectacle très abouti sur un texte intelligent, spirituel et malin, avec un fil narratif jubilatoire, à plusieurs niveaux de compréhension d'ailleurs, ce qui permit aux petits et grands de s'y retrouver, chacun à sa mesure. Un message humaniste et écologiste qui passe sans problème. Puis en 2006, il y eut Les Bons, Les Brutes et Les Truands, un western électrique joué par 24 pieds tendres à l'ombre des cactus transgéniques de l'Oklahoma. Et comme le monde se divise en deux catégories, il y avait les bons, these goods, et la très très bad bande des frères Terreur, les brutes, these uglies, c'est alors que trois énigmatiques étrangers en poncho et harmonica surgissent sur leur mulet, ce sont les truands, these bads. Mais qui sont ces canailles dans cet impitoyable bled? Puis il y eut Songe, une adaptation libre de Songe d'une nuit d'été dont je vous parlerai en fin d'émission. Précisons aussi que ces projets de tournée lointaine, avec un spectacle joué par des enfants et des adolescents, sont fréquents chez la compagnie Tamerlan-Tong. En 30 ans d'existence, ils ont régulièrement conduit leurs jeunes troupes à l'étranger, selon les thèmes des spectacles. Alors je vais essayer d'accélérer. En 1996, il y eut Ali Baba et les Chebs du Rail à Tunis, en partenariat avec la ville de Tunis et l'ambassade de France en Tunisie. En 1998, la Sacrée Graule au Québec, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. En 2001, Zorro el Zapato à Mexico, au Mexique, en partenariat avec le district fédéral de Mexico et le théâtre de la Juventud. En 2003, toujours Zorro el Zapato, mais cette fois-ci à San Cristóbal de las Casas, toujours au Mexique, en partenariat avec le Conseil pour les cultures et les arts de l'État du Chiapas, et le théâtre de la ville. Puis, en 2004, Zorro el Zapato fut joué aussi à Lausanne, en Suisse, en partenariat avec les groupes scolaires de la ville et le théâtre de le Trianon. Puis en 2010, Les Bons, Les Brutes et Les Truands s'expatria à Florence, en Italie, en partenariat avec l'Alliance française, le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France et le bureau de coopération linguistique et artistique de l'Association Cultural Italiana. À chaque fois et dans chaque pays, ils ont pu réaliser ces tournées grâce au soutien et à l'appui des gouvernements et des institutions des pays dans lesquels ils se sont rendus. Les tournées de leurs spectacles furent de précieuses occasions pour rencontrer, échanger et tisser des liens avec les associations locales, les groupes scolaires, les collectifs de jeunesse, le public. Et ces liens restent vivaces de part et d'autre des frontières, non seulement dans les mémoires, mais aussi avec les correspondances qui continuent encore aujourd'hui. Alors je pense que vous commencez enfin à toucher du doigt la nature et l'envergure du travail fourni par cette compagnie TMT Tamerlan-Tong. Et vous vous demandez peut-être pourquoi vous ai-je parlé aussi longuement de cette association Tamerlan-Tong avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la pièce « La Tzigane » de Lord Stanley. Eh bien, plusieurs raisons à cela. Premièrement, tenter de vous inciter à aller voir les représentations de cette compagnie théâtrale lorsqu'elle se produira près de chez vous. Deuxièmement, vous offrir l'opportunité de jeter un autre regard sur les enfants souvent issus de la diversité qui parfois zone dans vos cités, hein, car c'est pas un phénomène qui est propre à la région parisienne. Troisièmement, ne pas hésiter à prendre contact avec eux si vous aviez envie de voir cette troupe d'enfants jouer dans votre ville. Et j'en reparlerai d'ailleurs en fin d'émission. Mais surtout, vous donnez peut-être l'idée de reproduire ce genre d'aventure au sein d'une association dans votre ville ou votre village. Sachant que le tissu associatif en France est bien représenté sur notre territoire. Et si j'ai pris ta mère en tongue, c'est comme je vous le disais en préambule, parce que j'ai vu le film documentaire La Tzigane sur la route avec ta mère en tongue, cet automne. Mais j'aurais pu aussi bien vous parler de La Colline, de la compagnie La Relève Bariolée, ou bien encore des Serruriers Magiques, hein, dont les chants d'enfants servaient de conclusion à l'émission du mois dernier sur le savoir. Et j'aurais pu vous en citer beaucoup d'autres. Mais comme l'expérience partagée par TMT fut et est motivante sous bien des aspects, je souhaite qu'elle ait su aussi vous intriguer et vous intéresser au point d'avoir envie de marcher sur ses pas. Alors ouvrons maintenant le deuxième chapitre de cette émission en revenant au thème qui servit de base à ce programme, la création en 2013 de la pièce La Tzigane de Lord Stanley de Christine Pélican, mise en scène par Christine Pélican, et du film documentaire de Sébastien Lefebvre, La Tzigane sur la route avec ta mère en tongue. Une épopée surréaliste où les préjugés tombèrent et où les thèmes abordés furent le rejet, la différence, l'amour, le racisme et la souffrance des étrangers. Le synopsis, ou le résumé de l'intrigue, c'est à vrai dire l'histoire d'une grande famille tzigane qui arrive sur un terrain. Les villageois ne veulent pas les accueillir, bien sûr, naissent des tensions avec la population locale. Mais arrive Lord Stanley pour calmer la situation. Et l'une des jeunes filles tzigane tombe amoureuse du Lord et cet amour est réciproque, le coup de foudre. Mais cet amour reste impossible car les tziganes ne voudront pas d'un gadjo. Alors ils décident de s'enfuir tous les deux. Puis ils doivent se battre contre leurs milieux respectifs. Au fil de la pièce, on s'aperçoit que les villageois ont certains travers, mais que les tziganes en ont tout autant. Le monde n'étant pas manichéen, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Mais cette ode à la tolérance se termine bien. La joie de montrer cette pièce, c'est qu'à la plaine Saint-Denis, il y avait plein de campements avec des gamins qui se faisaient insulter, qui crevaient de faim et de froid l'hiver. On voyait même parfois des bagnoles foncer sur des mamans avec leurs poussettes. Et le malaise s'installant, ils ont pensé qu'il était temps de parler de ça. Car pour les gamins de la compagnie, ces gens c'étaient des SDF. Mais par extension, les bohémiens de cette pièce sont les exclus dans leur ensemble. Et par ce rejet de la différence, les gamins pouvaient se reconnaître au travers de ces bohémiens. Je tiens à préciser qu'il m'a été difficile, au travers de cette émission, de différencier ou d'expliquer en deux temps bien distincts la pièce et le film, tant les deux sont proches et s'entrecroisent. Ce qui est sûr, c'est que grâce à ce film documentaire que j'ai eu la possibilité de connaître cette pièce et par la même occasion la compagnie TMT. À vrai dire, ce film pénètre et retrace l'épopée théâtrale de cette troupe d'enfants et d'adolescents issus de la plaine Saint-Denis où, pendant 8 ans, 24 jeunes ont porté sur scène la pièce « La Tzigane » de Lord Stanley, une version moderne, pourrait-on dire, de Roméo et Juliette qui lutte contre le racisme anti-rome. Dans ce documentaire, on voit les répétitions, les voyages, les tournées en France et en Slovaquie, ainsi que les rencontres interculturelles qui ont accompagné la troupe. En résumé, La Tzigane sur la route avec ta mère en tongue est un documentaire de 52 minutes réalisé par Sébastien Lefebvre qui suit la troupe des jeunes de la plaine Saint-Denis dans leur parcours théâtral engagé contre le racisme. Je pense que tout ça doit rappeler des souvenirs aux auditeurs de Fréquence Mistral qui les reçurent pour une émission suite à leur passage à Briançon en février 2015. Maintenant, regardons comment et pourquoi cette pièce, la Digane de Lord Stanley, fut jouée en Europe de l'Est. C'était un rêve évident pour tous depuis sa création en 2013. Mais il leur fallait trouver une ouverture, un pont pour mener cette caravane. En janvier 2016, passant le cap des 30 représentations, lors de leur passage sur la scène nationale du Théâtre Sénart, ils rencontrèrent Ivan Akimov, talentueux musicien slovaque, fondateur de la troupe Kesai Chave, qui avait monté une école pour les gamins des Osada, où le nom de bidonville serait plus approprié, ces ghettos de Rome constitués de bidonvilles sur des montagnes de déchets sans accès à l'eau potable, sans route, sans accès équitable aux soins, à l'éducation, au marché, du travail ni aux aides sociales. Cela faisait longtemps que la compagnie Tamerlantang entendait parler des Kesai Chave et voulait les rencontrer. Parce que cette troupe slovaque paraissait être le miroir de la Tsigana de Tamerlantang. Ils organisèrent donc des rencontres artistiques entre les deux troupes. Ivan leur parla avec amour de son pays, la Slovaquie, du travail qu'il faisait avec les jeunes Tsiganes et des possibilités de représentation qu'il imaginait là-bas pour ce spectacle, la Tsigane de Lord Stanley. C'est ainsi que la fenêtre s'est ouverte sur la Slovaquie, alors que ce pays s'apprêtait à assumer la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir de juillet 2016. La réalisation de ce projet leur a paru comme un beau symbole d'espoir, une expérience européenne multiculturelle fondatrice pour tisser des liens fraternels entre la jeunesse française et slovaque. La jeune troupe d'acteurs, issue d'un quartier populaire cosmopolite où vivent ensemble des habitants d'origine culturelle, sociale et religieuse très diverses, serait la preuve que la diversité et l'amitié entre les peuples étaient une force et une richesse. À l'heure de la violence, de la xénophobie, de la peur de l'autre et du lendemain, ce projet de tournée était ambitieux et ils furent déterminés à le mener à bien. Mais un problème se posait quand même. Tamerlantang, c'était une troupe de jeunes acteurs où tout s'articulait essentiellement autour du texte, et les Kesai Chave, c'était eux des musiciens où tout s'articulait autour de la musique et de la danse. Et comme dans ces ghettos, personne ne parle le français, il était devenu évident qu'ils joueraient la pièce en slovaque. Et croyez-moi, moi qui suis allé en Tchécoslovaquie à l'époque, le slave, ce n'était pas l'italien ou l'espagnol, ce n'était pas une langue latine. Et les sons à produire ne sont pas évidents. Alors les gamins prirent des cours. Et si vous voyez le film, vous verrez la vitesse à laquelle ils ont progressé, contrairement aux adultes. C'était époustouflant. Et la tournée fut donc une véritable folie d'émotion et d'énergie. Loin des préjugés et des discours diffusés par les médias de masse, la jeune troupe d'acteurs, par sa simple présence physique, donna une vision positive de la réalité. Et c'est ainsi que prit corps ce projet et qu'ils partirent pour jouer leur spectacle à Bratislava, la capitale, ainsi que dans quelques autres villes du pays. Ce voyage fut l'occasion d'approfondir les relations entre jeunes Slovaques et Français. Ce voyage autour du spectacle, la Tsigane de Lord Stanley, dut être pensé comme un pont entre ces deux pays, un pont bâti avec les jeunes citoyens slovaques. Et chacun a su tirer profit de cette expérience unique et merveilleuse. Et les premières images du documentaire s'arrêtent sur leur dernière représentation, où tous chialent, prenant conscience qu'ils venaient de transformer un essai et d'acquérir un savoir qui ne les quitterait jamais. Alors après avoir vu ce film documentaire, je suis allé sur la toile pour visionner quelques vidéos et j'ai remarqué qu'on retrouvait certaines comédiennes à des âges différents. Et j'ai souhaité les contacter et c'est Oumera Ouzerali qui m'a répondu pour partager avec vous son expérience et un brin de son histoire. Voilà ce qu'elle m'a dit. J'ai commencé le théâtre à l'âge de 7 ans, avec la compagnie Tamerlantang. Mon premier spectacle était un triptyque composé de trois formes de 30 minutes. J'ai joué dans Les Bottes Rouges, où j'incarnais la maman. D'ailleurs, dans la majorité des spectacles que j'ai joués par la suite, j'ai souvent interprété des rôles de mère, des figures féminines fortes, protectrices ou marquées par la vie. À cette époque, le théâtre était avant tout un jeu, un espace de liberté et d'amusement, sans réelle conscience de ce que cette pratique allait devenir pour moi. Avec le temps, le théâtre a pris une place bien plus profonde dans ma vie. Il est devenu un moyen de comprendre le monde, les autres et moi-même. Un tournant important de mon parcours a été ma participation à la Tziganne de Lord Stanley, une pièce d'une durée d'environ une heure et demie, centrée sur les gens du voyage. À travers ce projet, j'ai découvert des réalités souvent ignorées ou caricaturées, les Roms, les Gitans, les Yéniches et d'autres communautés encore. Cette expérience a profondément transformé mon regard sur la société et sur les mécanismes d'exclusion. J'ai pris conscience du fait que notre monde valorise principalement l'argent et la réussite visible, laissant de côté celles et ceux qui vivent autrement. Cette pièce m'a permis de développer une véritable attention à l'autre, d'apprendre à écouter et à observer sans juger. Elle m'a fait grandir et mûrir, humainement et artistiquement. J'étais encore très jeune à ce moment-là, autour de 10 ans. Comme beaucoup d'enfants, je pensais surtout à moi, influencé par la vision du monde transmise par mon entourage, mes parents et la société dans laquelle je grandissais. Le théâtre m'a aidé à déconstruire une vision unique, à me poser des questions et à élargir mon point de vue. Un autre élément fondamental de mon parcours a été mon passage en foyer éducatif, où j'ai vécu pendant 2 ans. Cette période a été extrêmement difficile, autant pour moi que pour ma famille. Elle a été marquée par des épreuves mentales lourdes, des conflits, des problèmes avec la justice et un profond sentiment d'isolement. Cette expérience a laissé une empreinte durable dans ma construction personnelle. Je viens d'un milieu familial très traditionnel, où la place de la femme est très souvent réduite au silence et soumise aux décisions des hommes. Cette vision m'a toujours profondément révolté. Le théâtre est alors devenu un acte de résistance. C'était l'endroit où je pouvais parler, m'exprimer librement, affirmer que j'existe, que je pense, que je crée et que je suis capable. Sur scène, je pouvais montrer ma force et mon talent et les partager avec les autres. Durant mes années en foyer éducatif, le théâtre a été un moteur. Savoir que le vendredi, je retrouvais ma compagnie, les répétitions, les rires, les amis et la scène, me donnait l'énergie pour tenir au quotidien. Jouer devant un public me permettait de me libérer de ce que je ne pouvais pas toujours dire dans la vie. Sur scène, je pouvais crier, donner, transformer ma colère, ma douleur et mon énergie en quelque chose de vivant et de partageable. Aujourd'hui, 16 ans après le début de cette aventure, à 23 ans, je joue dans Songe, une pièce dont vous allez d'ailleurs parler en fin d'émission. Le théâtre m'accompagne depuis plus de la moitié de ma vie et je peux affirmer sans hésiter qu'il fait partie intégrante de mon identité. Ce n'est pas seulement une pratique artistique, c'est un outil de survie, d'émancipation et de transmission qui continue de me construire chaque jour. Eh bien, merci Oumera pour ce témoignage attestant de l'importance que cette compagnie, que le théâtre, a eu et a encore sur de nombreux enfants, ados et jeunes adultes. Alors ouvrons maintenant le troisième volet de cette émission, car après avoir commencé par découvrir ensemble la compagnie Ta mère en tongue, puis deuxièmement s'être arrêté un bon moment sur la pièce de théâtre La Tziganne de Lord Stanley, et sur le film documentaire qui me la fit connaître, regardons de plus près qui sont réellement ces populations autour duquel s'articulent cette pièce et ce film documentaire « Rome et Tzigane ». Alors dans un premier temps, et comme je le soulignais déjà en octobre 2017 dans l'émission « Tzigane, Rome, Manouche et Gitan », les études récentes linguistiques et génétiques confirment que leurs origines remontent au nord-ouest de l'Inde. Mais ce n'est qu'au début du XVe siècle qu'apparaissent les premiers écrits sur les Roms, avec une lettre de protection du roi de Hongrie, Sigismond, datée de 1425, qui confirme sa tolérance au regard des Roms. Rome qui commence à s'étendre vers la Bohême, certains poursuivant même au-delà de la Bohême, allant jusqu'en France, en Espagne, en Italie. Et les rejets ne firent pas attendre. Les États commencèrent, à cette époque, à réagir avec des lois anti-Rome, suivies au XVIe siècle par des expulsions, laissant se développer et cultivant un sentiment anti-Rome dans une bonne partie de l'Europe. Sentiment atteignant son paroxysme sous le régime nazi, qui visa cruellement cette communauté. Les nazis considéraient les Tziganes comme racialement inférieurs et, notez bien, s'appuyant entre autres sur les préjugés sociaux de nombreux Allemands non-nazis. L'armée allemande et les unités de la SS et de la police exécutèrent au moins 30 000 Tziganes dans les pays baltes et en Union soviétique occupée. La France n'y échappa pas, hein. Les autorités de Vichy intensifièrent les mesures restrictives à l'encontre des Tziganes à partir de 1940. Entre 1941 et 1942, la police française interna au moins 3 000 et peut-être jusqu'à 6 000 Tziganes qui résidaient en France, occupés et non occupés. Je parle de la France, mais j'aurais pu vous citer aussi la Pologne, la Hongrie, la Serbie occupée, où les autorités allemandes tuèrent les Tziganes hommes dans des fusillades en 1941 et 1942, puis assassinèrent les femmes et les enfants dans des camions à gaz. La Roumanie, où les militaires et les policiers roumains déportèrent en 1941 et 1942 environ 26 000 Tziganes. La Croatie indépendante, alors alliée de l'Allemagne, où les Oustachis, membres du mouvement terroriste et nationaliste, exterminèrent la quasi-totalité de la population tzigane du pays, soit environ 25 000 personnes. Rappelons que les Roms sont, démographiquement, la deuxième population européenne victime d'une extermination familiale et raciale après les Juifs d'Europe. Mais après la guerre, les discriminations contre les Tziganes continuèrent à travers l'Europe centrale et orientale. La République fédérale d'Allemagne décida que toutes les mesures prises contre les Tziganes avant 1943 étaient des mesures officielles, légitimes et non le résultat d'une politique inspirée par des préjugés raciaux. C'est seulement à la fin de l'année 1979 que le Parlement de la République fédérale d'Allemagne reconnut le caractère raciste de la persécution des Tziganes par les nazis. Par contre, à cette date-là, malheureusement, beaucoup de ces victimes étaient déjà décédées. La sédentarisation progressive des Roms au XXe siècle a très légèrement apaisé les crispations, sans pour autant régler la situation. Malgré la politique d'exclusion mise en œuvre depuis la fin des années 90, la population rome en France reste stable d'année en année, entre 15 000 et 20 000 personnes, réparties principalement dans les centres urbains, Paris, sa région et presque toutes les grandes villes. On est très loin, malgré tout, de l'invasion fantasmée par certains. Pourtant, nos sociétés se montrent extrêmement dures à l'égard des Roms. Elles les voient comme des voleurs, des asociaux, des fainéants, et leur prêtent des intentions d'installation durable qui ne correspondent à aucune réalité, puisque la plupart d'entre eux sont seulement ici pour travailler quelques mois ou quelques années. Alors, en faisant abstraction de leurs origines lointaines dont je parlais il y a quelques minutes, qui sont vraiment les Roms et pourquoi tant de haine? Les Roms viennent aujourd'hui majoritairement de Roumanie et de Bulgarie et sont donc des Européens à part entière. Pourtant, ils font l'objet d'une logique politique d'exclusion et de préjugés toujours tenace. Souvent, l'amalgame est fait avec ce que l'on appelle les gens du voyage, les manouches, les gitans, qui sont, eux, pour l'essentiel, des citoyens français depuis des générations. Donc, premier point à retenir, c'est qu'il n'y a pas grand-chose en commun entre les manouches et les gitans, installés en France et en Espagne depuis le début du XVe siècle, et les tziganes, arrivés de Roumanie après l'abolition de l'esclavage dans ce pays, au milieu du XIXe siècle, très récemment, pratique dont ils étaient les principales victimes. Donc, quand les autorités font eux-mêmes des confusions en demandant aux Roms de s'installer dans les aires réservées aux gens du voyage, ils oublient qu'ils n'ont aucun droit d'y accéder. Notons aussi que les Roms eux-mêmes ne se voient pas comme un seul et unique groupe à l'échelle de l'Europe. Ils ont des nationalités différentes, des religions différentes. Certains sont catholiques, d'autres orthodoxes, d'autres encore évangélistes. Et ils sont loin de tous parler le romani. Et comme la Roumanie compte plus d'un million de Roms, c'est à peu près 5% de la population totale du pays, les confusions fréquentes naissent entre les termes « Rom » et « Roumain », pris comme des synonymes. Et beaucoup pensent que le mot « Rom », proche du mot « Roumain », en est une abréviation. Comme souvent d'ailleurs, l'explication de cette migration des Roms est essentiellement économique. Cette émigration Roms actuelle vers l'Europe de l'Ouest et la France a débuté à la fin des années 1980 et s'est particulièrement accélérée après la chute du mur de Berlin. Issue d'abord de Yougoslavie, puis de Hongrie et de Pologne, ces flux migratoires sont devenus majoritairement, comme je vous le disais, roumains et bulgares dans les années 90. Et même si les régimes socialistes percevaient les Roms comme anachroniques, ils leur ont assuré l'accès au travail, à l'école et à la santé. Du coup, ces derniers ont subi de plein fouet l'effondrement du système socialiste. À Vrestita, en Transylvanie, au nord de la Roumanie, certains Roms se trouvent ainsi confrontés à un problème d'habitat ubuesque. Ils vivent depuis 40 ans dans des maisons sur lesquelles ils n'ont plus aucun droit. Ils ont été installés là par le régime communiste dans les années 60-70, souvent à la suite de spoliations. Mais la transmission des droits fonciers ne s'est jamais faite après la chute du mur, comme l'expliquait Grégoire Cousin, anthropologiste et juriste spécialiste de la question des Roms à la Maison des sciences de l'homme à Paris. Aujourd'hui, ils sont à la merci des politiques locales et le maire peut décider à tout moment de raser le quartier. Les Roms sont à vrai dire des Européens, mais aux droits limités. Dès l'ouverture des négociations de l'Union européenne avec la Roumanie et la Bulgarie en 2002, les ressortissants de ces deux pays ont pu circuler librement dans l'espace Schengen, mais comme touristes seulement, sans droit de travailler. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie ont intégré officiellement l'Union européenne, mais le sort de leurs travailleurs, Roms ou non, n'a pas connu d'évolution. D'où un véritable cercle vicieux. Sans possibilité de travailler légalement, les Roms ont été cantonnés à l'économie grise, ce qui a permis de poursuivre la politique d'expulsion à leur égard au motif qu'ils ne pouvaient pas justifier de revenus suffisants pour rester sur le territoire français. Même si légalement les choses ont légèrement évolué depuis une dizaine d'années, la logique institutionnelle d'exclusion reste obstinément la même. Et l'histoire de ces populations fait encore l'objet d'une grande méconnaissance. L'instrumentalisation politique récurrente de la situation de certains immigrés venus d'Europe de l'Est tend à brouiller encore plus les cartes. Il y a peu encore, des Roms furent pris pour cible, victimes de folles rumeurs, accusés d'enlever des enfants, avec des infos d'enfants kidnappés, relayées sur les réseaux sociaux, ce que, un peu tardivement, la préfecture de police de Paris a formellement démenti. Mais quand le mal est fait, le mal est fait. Et j'aimerais, à ce stade de l'émission, vous poser quelques questions, genre un petit quiz, hein, qui nous amènera à réfléchir. Quand j'étais jeune à Paris, on disait que les prostituées étaient des bretonnes. Alors, les bretonnes de Paris, face à la prostitution, une réalité ou un fantasme? Ces femmes représentaient assurément le revers de la médaille de la communauté bretonne de Paris, bien loin des rêves de richesse et d'ascension sociale que semblait promettre la capitale. Toutefois, il paraît important de faire la part des choses entre, d'un côté, les réalités de l'exploitation de la misère économique de ces immigrés par les proxénètes parisiens, et d'un autre côté, les fantasmes qui entourent les enjeux moraux, dissuadant ces jeunes filles de quitter leur province en direction de Paris Sodome. Tout d'abord, force est de constater que les sources de la presse étaient assez prolixes sur le sujet de la prostitution des bretonnes à Paris. Je fais court. Est-il normal et juste de dire que les bretonnes sont des prostituées? Je vous laisse répondre. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en parle plus. Certains peut-être même découvrent ce sujet. Plus près de nous, Jérôme Cahuzac, face à l'Assemblée nationale, déclare « Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant ni avant ». Quelques mois plus tard, l'ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac, a été reconnu coupable de fraude fiscale, blanchiment et fausse déclaration de patrimoine. Peut-on déduire face à cette vérité affligeante que les ministres du budget, de l'économie ou des finances, voire tous les ministres, sont des fraudeurs? Quoique, non, je rigole. Les Auvergnats ont fait fortune dans la limonade et le bistrot à Paris. C'est vrai, j'ai même vu le documentaire sur les frères Coste, ces deux fils d'agriculteurs qui ont construit une marque branchée et un empire de cafetiers dans la capitale. Puis l'autre reportage aussi, qui montrait qu'ils détenaient 40% des affaires sur Paris. Personnellement, mon grand-père est monté à Paris pour faire loufia et bougna à la Fourche rue Saint-Jean. Mais je vous repose la question. Les Auvergnats, pas des Auvergnats, non, les Auvergnats ont-ils fait fortune dans les bistrots? Puis je pourrais vous la faire avec les Corses, tous les Corses sont policiers. Et si nous revenons au sujet qui nous intéresse, les Roms? Un réseau de 78 voleurs mineurs actifs dans le métro parisien, notamment durant l'Euro 2016, a été démantelé en 2017, diffusé par le film documentaire Trafic d'enfants. Alors, il existe des mafias italiennes, russes, israéliennes, mexicaines. Il y a aussi des mafias roms. Mais il s'agit d'une petite minorité que les Roms eux-mêmes désapprouvent. Des Parisiens vous le diront, à juste titre, qu'ils ont vu des enfants mineurs roms mendier et voler même. Mais je vous repose la question, les Roms sont-ils des voleurs? C'est vrai qu'en prenant un peu de recul, on a souvent un regard plus éclairé. Et j'aimerais bien refermer ce paragraphe avant d'ouvrir le quatrième et dernier volet de cette émission par une réflexion, celle d'un sociologue et philosophe français et théoricien de la pensée complexe. Lorsqu'on se surprend à avoir parfois un regard méprisant ou injuste sous ce rapport, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas été éduqué, car le problème vient souvent, voire toujours, comme le disait donc ce sociologue Edgar Morin, qu'on a été éduqué juste assez pour croire ce qu'on nous a enseigné, mais pas assez pour remettre en cause tout ce qu'on nous a dit. Il soulignait par là que l'éducation nous enseigne à accepter les idées et les valeurs dominantes sans jamais les remettre en question. Et on ne peut pas taxer Edgar Morin d'être complotiste. Là encore, je vous laisserai quelques liens sur des articles du CNRS et d'autres sur lesquels j'ai travaillé pour construire cette émission. Le quatrième et dernier point abordé dans cette émission sera, comme convenu, de faire état des derniers travaux entrepris, réalisés et proposés par cette assoc Tamerentong TMT. Alors il s'agit de la création et de la présentation d'une nouvelle pièce de théâtre, Songe, une adaptation très libre de la pièce Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Cette fois-ci, jouée par contre par une troupe intergénérationnelle, 22 enfants et jeunes âgés de 5 à 25 ans et 11 interprètes professionnels. La troupe est une fois de plus métissée, composite, à l'image des quartiers d'où ils sont. C'est là qu'est leur trésor d'ailleurs. Décloisonner, fédérer, démolir les murs identitaires pour nous enrichir toujours plus de ce foisonnement étant le credo de TMT depuis plus de 30 ans. Je précise que pour cette nouvelle création, le mélange des âges et l'arrivée sur scène de professionnels a pour but de brandir encore plus haut le faire ensemble. L'adaptation est encore une fois de Christine Pélican, accompagnée d'une trentaine d'assistants pour la danse, les costumes, les accessoires, la lumière, les illustrations sonores, la régie, la production. Petite parenthèse d'ailleurs, le mois prochain, les projecteurs se tourneront vers ces métiers de l'ombre, s'activant en coulisses. Voilà, je referme cette petite parenthèse pour en revenir à cette pièce. L'aventure amoureuse des jeunes, comme rébellion contre l'ordre des pères, est un sujet récurrent chez Shakespeare et dans la littérature en règle générale. Et c'est ainsi que le top départ du mariage forcé a tout de suite fait écho chez la jeune troupe, avec un sujet tristement toujours d'actualité dans notre monde. Alors n'ayant pas envie de spolier ou divulgâcher cette merveilleuse pièce, je ne vous en dirai pas plus, mais je vous encourage, si vous vous trouvez dans les parages, d'aller les voir du 2 au 5 avril au Théâtre Traversière, à deux pas de la gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Et pour ceux qui écouteront cette émission trop tard et en podcast, ils pourront y aller, s'ils le désirent, les 21 et 22 mai au Collectif 12 à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Mais j'aimerais aussi rappeler à certains acteurs et décideurs artistiques et culturels qui m'écoutent que cette pièce Songe, mêlant théâtre, crump et musique live dans un spectacle onirique, pourrait se rendre dans votre région, dans votre département, voire dans votre commune, si vous en manifestiez le désir. Pour ce faire d'ailleurs, je laisserai quelques liens vous permettant de prendre contact avec les responsables de ce projet. Tout en vous rappelant, une fois de plus, que le professionnalisme de leur travail les a déjà amenés à se produire un peu partout en France, ainsi qu'à l'étranger d'ailleurs, comme nous l'avons vu ensemble, avec cette pièce qui fut le thème de cette émission, La Tzigane sur la route. Alors, n'hésitez pas à les contacter, sachant que le basculement de notre monde s'est accéléré, guerre, désastre écologique, mise en danger des libertés, mise à mal des valeurs de solidarité et de la résistance face à la domination des puissants et de leur argent, il est plus que jamais nécessaire de créer des ponts pour se désempêtrer du désarroi et se projeter ensemble dans un futur possible. Il faut savoir faire de bons choix en termes de divertissement culturel, et cette pièce en est un, car Songe est un conte, un front de liberté et de vie où nos différences ont toute leur place. Voilà le message final que j'avais envie de vous transmettre.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beng.
Et oui, une fois de plus, voilà comment s'achève cette heure passée ensemble et en compagnie de l'association Tamerentong. Compagnie qui, au travers de son travail et de ses engagements, a su nous proposer une aventure théâtrale qui nous amena à réfléchir avec cette pièce, La Tzigane sur la route. L'autre bonne nouvelle encore, et que le film documentaire, écrit et réalisé par Sébastien Lefebvre, permettant de s'immerger dans le quotidien de cette petite troupe et de cette épopée surréaliste où les préjugés tombèrent, sera bientôt sur nos écrans, oui, dès ce mois de juin. Et oui, ce doc, qui me permet de construire cette émission, fera l'objet d'une sortie en salle prévue pour le mercredi 3 juin 2026, oui, dans un gros mois. L'autre atout de cette pièce et de ce film documentaire réside dans les réflexions qu'il nous propose au sujet de toutes ces minorités. Au travers de ses travaux artistiques et politiques, nous avons pu, une fois de plus, tenter de faire la lumière, façon de parler, plutôt d'essayer de donner un éclaircissement sur toutes les différences et parfois les similitudes que ces individus partagent. Et comme essayer de rétablir certaines vérités reste le credo de ce programme Orinoco, je dois reconnaître que ce principe ne fut pas trahi dans cette émission et que nous aurons, peut-être tous, du moins je l'espère, une image plus claire sur la culture, les origines et l'identité des Roms, des Tziganes, des sédentaires ou des gens du voyage, comme on aime à les appeler. Comme à chaque fois, je ne peux que vous encourager à vous rendre en un clic sur le site orinoco-podcast pour découvrir quelques illustrations, des liens se rapportant à cette pièce et à ce documentaire, ainsi que la playlist complète de cette émission. Vous pourrez, si vous le désirez, réécouter et partager cette émission avec vos amis, du moins ceux que vous pensez susceptibles d'être intéressés par ce programme. Merci une fois de plus à tous les auditeurs des radios qui diffusent ce programme. Et comme à chaque fois, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce qu'est l'indispensable de l'art total et pénétrer par la même occasion dans les coulisses de l'Opéra National de Lyon pour comprendre ce qui se passe derrière le rideau. Et comme j'avais conclu l'émission du mois dernier avec un chant d'enfant, membre de l'association Les Serruriers Magiques, chanson et chant d'espoir pour une nouvelle génération, j'aimerais de nouveau terminer cette émission et vous quitter, encore une fois, sur un chant d'enfant, et de jeune plutôt, avec un extrait de Pleno ma plaine, le clip officiel de la compagnie Tamerlantong.
Jalousie, la conquête, on l'a vu qui de fondait Taragouzi. C'est Ghostface, Toutou
et All Dirty Talsem.
Pas de chromis dans les mains, y'a que les tombes de Tarum.
Au fil du temps, vous avez pris les devants. Promis qu'on se recroisera par l'aubépine et le vent.
À force de se côtoyer, un pur kiff s'est installé. Donc gros big up à vous, la tzigane de Lord Stanley.
Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sors tu la graine d'artiste que l'on sème. Les chevaliers, one shoe et one shoe. Chante sur la scène avec courage. Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers, one shoe et one shoe. Chante sur la scène avec courage.
Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers, one shoe et one shoe. Chante sur la scène avec courage.
Pleine ma plaine, mon immense plaine. Sens-tu la graine d'artiste que l'on sème? Les chevaliers one shoe one shoe, ha ha, chante sur la scène avec courage.
Je vous attends avec impatience le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises qui saura vous plaire, du moins, je l'espère. Portez-vous bien. Ciao.